7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Avec la crise du Covid, tous nos repères, notre mode de vie, notre façon de travailler, nos loisirs, nos relations aux autres ont été bousculés et l'actuel rebond de la pandémie ne fait qu'alimenter le sentiment de morosité et d'incertitude, peur de la maladie, de la mort, du chômage. Alors comment rester positif? Comment garder l'espoir quand tout semble sans issue? Comment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? On compte sur nos invités pour nous donner des pistes. Florence Servan-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, conférencière, spécialisée en psychologie positive et auteure de Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer. C'est publié chez Marabout. Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et écrivain, spécialiste des violences du quotidien. Vous enseignez la méditation et vous publiez « Comment rester serein quand tout s'effondre » aux éditions Flammarion. Si vous avez des témoignages ou des questions pour nos invités, n'hésitez pas, je vous rappelle notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Beautiful monde avec 7 milliards de voisins.
Fabrice Midal, on peut dire que votre essai tombe à pic tant on a besoin de garder le moral en cette période troublée, compliquée. Est-ce que le philosophe que vous êtes estime que le Covid nous a conduit à verser dans le catastrophisme?
Surtout, on a tendance à être enfermé dans l'immédiateté de ce qu'on ressent. J'étais à la télévision le soir où il y a eu les annonces de la fermeture des restaurants à Marseille. Et c'est très différent quand on regarde et quand j'étais sur le plateau. Et sur le plateau, j'étais frappé. On interroge les gens qui avaient, dont on fermait les restaurants. Ils faisaient part de leur colère et c'était tout. Et je me suis dit, mais enfermer les gens dans l'immédiateté de ce qu'ils ressentent, sans qu'il y ait d'analyse, de pensée, de possibilité de prendre un peu de hauteur, c'est très difficile. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est problématique, c'est qu'on est enfermé dans l'immédiateté du ressenti, d'une actualité qui bouge tout le temps, et que ce dont on a besoin, c'est de prendre de la hauteur. Mais aussi, pour répondre à votre question, je suis frappé que c'est sûr, la Terre tremble aujourd'hui, mais en fait, à toutes les époques de l'humanité, depuis les temps préhistoriques, la Terre a tremblé. Mes parents, mon père a connu la guerre d'Algérie, mes grands-parents ont connu le nazisme et la guerre avec toute la violence que c'était. Donc je pense que, bien sûr, on a l'impression que tout devrait toujours bien aller, mais la Terre tremble. Et au fond, quand on regarde toute cette histoire, on voit que chaque génération apprend à faire face aux difficultés. Et que la manière peut-être d'être serein, c'est pas vouloir entrer dans une tour d'ivoire à l'abri du monde, mais de voir que nous sommes les héritiers d'une longue histoire qui nous a appris à faire face aux difficultés, à la peur. Mais pour cela, il faut en parler. Il faut parler de la possibilité de prendre de la hauteur et pas être enfermé dans l'immédiateté de ce qu'on ressent.
Florence Servan-Schreiber, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut un peu relativiser les événements et l'enchaînement des événements depuis le mois de mars, hein, en France en tout cas, où on est confronté à cette épidémie de coronavirus, à ce virus, à cette menace qui est autour de nous mais qu'on ne voit pas?
Alors, je vais dire les choses autrement. Plus que de relativiser, c'est malgré ce qui est en train de se passer dans nos vies, à chacune et à chacun, il y a encore des choses formidables. Et en fait, nous sommes déséquilibrés, mais l'avantage du déséquilibre, c'est qu'on retrouve son équilibre. Et en fait, nous sommes pris dans un mouvement. Ça, c'est inhabituel, puisque nous étions en fait un peu pépères. C'était finalement assez tranquille ce que nous vivions. Et là, maintenant, il y a des secousses. Mais les secousses permettent de se redresser, permettent de trouver le meilleur, permettent de donner de la valeur aux choses. Donc, oui, c'est dur. Et tout le monde traverse des difficultés. Et quand je croise quelqu'un, vraiment, je me dis, cette personne est en train de vivre des choses extrêmement difficiles. Mais par ailleurs, nous nous réparons aussi à chaque fois un petit peu. Donc, on peut aussi regarder ça.
Fabrice Midal, vous avez rencontré des soignants qui ont dû affronter la crise du Covid. Comment avez-vous répondu à l'angoisse qu'ils vous ont exprimée?
D'abord, la première chose, c'est de laisser tomber l'idée qu'on serait en faute si on a peur. Et parce qu'il y a quand même, c'est paradoxal, on est à la fois enfermé dans l'immédiateté de ce qu'on ressent, et en même temps, on serait en faute d'avoir mal, d'avoir peur. Et donc, souvent, surtout pendant le confinement où j'ai travaillé pas mal avec des soignants, c'était déjà d'arriver à les aider à formuler ce qui leur faisait peur. Je me souviens, une soignante, elle était très mal, Et en parlant avec elle, elle s'est rendue compte que ce qui lui faisait peur, c'était de ne pas être à la hauteur. Et donc, elle était surprise elle-même. Quand on commence à nommer ce qui nous fait peur, c'est plus facile d'aller de l'avant. Et je crois que c'est ça ce qu'il nous faut faire. Ne pas être enfermé dans ce qu'on ressent, mais pouvoir lui ouvrir la porte pour, à partir de là, avancer. Comme le dit très justement Florence, accepter qu'il y a un déséquilibre, c'est ce qui permet de retrouver de l'équilibre. Mais juste, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on... Ça semble bizarre aujourd'hui de parler du fait qu'on n'est pas un bouchon de liège qui est menacé par les vagues. On a une capacité d'agir, on a une capacité d'inventer de nouveaux possibles. J'ai aussi pas mal travaillé avec des dirigeants d'entreprise au moment du confinement et au moment où il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et souvent, ce qui était important, c'est ce que dit la philosophe Simone Veil, qui est un peu au cœur de mon livre. Simone Veil dit... Le pire qu'on puisse faire dans une crise, c'est faire ce qu'on connaît déjà. Parce que dans une crise, si vous n'inventez pas de nouveaux possibles, vous n'allez pas voir les évolutions et ce qui change. Donc la première chose quand on vacille, quand la terre tremble, quand on perd l'équilibre, c'est de vouloir exactement retrouver l'équilibre comme on le faisait avant. Et alors là, ça vous bloque complètement parce que ce qu'il faut faire, c'est essayer de regarder la réalité pour trouver de nouveaux chemins qu'on ne soupçonnait pas. Et donc ça demande d'accepter l'incertitude. Et c'est tout le paradoxe. Vous pouvez vous redresser, vous pouvez avancer. Si vous acceptez l'incertitude, alors qu'on a tendance à penser que ça n'est pas bien, parce qu'on confond la sérénité et le confort. On pense qu'on devrait être confortable. La situation n'est pas confortable. Mais ce n'est pas parce qu'elle est inconfortable que c'est forcément mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on finisse par identifier le bonheur, le positif avec le confort. Ça n'est pas vrai. Le confort finit par nous endormir.
Je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'est celui de Faouzia, ancienne basketteuse, capitaine de l'équipe du Bénin. Elle a dû être amputée de la jambe.
Bonjour, je suis Faouzia, j'interviens depuis Abidjan. Alors, comment rester positif quand tout s'effondre? Il faut d'abord se mettre dans la tête que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que les épreuves font partie aussi de la vie. Il n'y a pas de hasard sur terre et parfois même, on apprend mieux certaines leçons dans certaines difficultés, c'est-à-dire que les épreuves ne sont pas forcément là pour nous abattre, non. C'est parfois de meilleurs moyens pour nous transmettre certaines leçons. Et des fois, c'est à travers même certaines difficultés qu'on se redécouvre soi-même, qu'on découvre certains dons qui étaient cachés en nous. On découvre qu'on a des capacités à s'adapter. Et donc, il faut savoir que la vie n'est pas toujours rose et que les épreuves font partie aussi de la vie et garder aussi la foi.
Florence. Magnifique, ouais. C'est très 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 émouvant.
Oui, Fabrice, votre première
C'est juste
réaction.
Très émouvant parce que c'est ça, les épreuves font partie de la vie et ça semble négatif et en fait c'est ça qui est positif. Et c'est ça le paradoxe, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre au fond. Comment rester serein quand tout s'effondre en acceptant qu'il y a du négatif et à partir de là, il peut se transformer en positif.
C'est... Florence.
Alors, le contraste est formidable, c'est-à-dire que nous avons l'illusion que lorsque nous sommes dans des périodes heureuses, c'est formidable et ça ne peut pas être mieux. Or, très souvent, on se rend compte que la difficulté rend presque les choses plus intéressantes, parce qu'à ce moment-là, nous devons passer à l'action. Nous n'essayons pas de conserver, nous n'essayons pas de maintenir les choses comme elles étaient, mais... Justement, nous nous lançons dans quelque chose de différent. Et quand on se lance dans quelque chose de différent, il se passe quelque chose de différent. Et donc, typiquement, ce témoignage est formidable parce qu'elle décrit toute la force qu'elle retrouve en elle, que probablement elle ne savait pas, dont elle ne savait pas disposer. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit plus de confiance pour tout ce qui pourra lui arriver par la suite. Donc finalement, lorsque nous sommes comme ça dans ces moments de déséquilibre, nous sommes en train de structurer notre résistance, notre force et notre souplesse, et celle qui va nous permettre d'avoir une vie qui est plus intéressante, qui est plus riche, qui est plus créative et finalement qui est probablement plus satisfaisante. C'est étrange, hein, mais dans le bonheur, le contraste compte beaucoup.
C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, Fabrice. Vous dites « Chacun a en soi des ressources qu'il ne soupçonne pas ».
Ça, c'est une des choses les plus étonnantes. C'est que j'imagine les auditrices et les auditeurs se disent « Oui, mais comment je fais? Parce que là, j'ai un problème. » Et on ne peut pas savoir avant d'y rentrer. C'est comme quand on apprend à nager. Vous pouvez apprendre à nager sur votre tabouret, ça ne vous aidera pas. À un moment, il faut rentrer dans l'eau. Et c'est en rentrant dans l'eau qu'on finit par savoir nager. Et en fait, dans la vie, quand on a une épreuve, on pense qu'on ne va pas y arriver. Et c'est normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est en entrant dans l'épreuve qu'on va découvrir des ressources qu'on ne soupçonnait pas et qui participent de la découverte de cette confiance profonde qu'il y a en nous.
On va prendre l'appel d'un auditeur à présent. Chérifou, bonjour.
Oui, bonjour Laurent.
Non, c'est Chantal, mais c'est pas grave.
Chantal.
Chérifou, c'est pas grave. Chérifou, vous nous appelez de Dakar, on vous écoute.
Oui, oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Je suis quelqu'un de très optimiste. D'une part, je comprends pourquoi je le suis comme ça, c'est-à-dire quand je prends l'exemple de mon parcours scolaire, j'ai toujours fait partie des 5 premiers de la classe. Donc, du coup, j'ai eu une grande confiance en soi. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand je fais une chose, par exemple, comme un concours, je suis tellement optimiste. C'est comme si c'est quelque chose qui est déjà gagné d'avance. Et malheureusement, si ça ne marche pas encore, l'échec m'abat et je suis tellement abattu. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Et la confiance en soi, je pense que c'est la conséquence de l'optimisme.
Alors, est-ce que... Voilà. Merci, Chérifou, pour ce témoignage. Fabrice Midal, est-ce qu'on peut pêcher par optimisme ou est-ce qu'il ne faut pas être trop optimiste pour ne pas ensuite chuter, tomber trop bas, comme expliqué à l'instant Chérifou ?
Chérifou, il montre comment il est dépendant du regard que les autres ont sur lui, puisqu'il dit qu'il a confiance parce qu'il était bon élève. Et je pense que ça devient problématique parce que la confiance ne vient pas de quelque chose de plus inconditionnel. Et paradoxalement, c'est des fois en étant mauvais élève qu'on a plus de confiance, parce qu'on voit qu'on arrive à se débrouiller, qu'on s'est débrouillé dans les épreuves, donc on est moins dépendant des diverses situations. Je crois que la confiance, elle vient de la relation à l'autre et de la relation au monde. On a un peu trop pensé que la confiance, elle vient de soi-même. Moi, je ne crois pas tellement dans la confiance en soi-même. Je crois qu'on a confiance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qui nous habite, à partir de la capacité qu'on a... de nous relier à la réalité. Donc, pour répondre à votre question, je crois que l'opposition entre optimiste et pessimiste n'est pas toujours... ça demande d'être plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que l'optimiste, est-ce que c'est voir que tout va bien se passer ou est-ce que l'optimiste, c'est parier pour le possible ? Il faut être optimiste dans le sens de ne pas se contenter de l'immédiateté des faits et s'engager pour ce qu'on veut voir apparaître. Donc, l'optimiste, on pourrait dire, c'est une sorte d'exigence presque morale de ne pas baisser les bras. Et à ce moment-là, on n'est jamais trop optimiste parce qu'on n'est jamais à ce moment-là trop prêt à s'engager dans le réel. Mais si optimiste, ça veut dire ne pas vouloir voir les difficultés et penser que tout va bien se passer, ça ne marche pas. Puisque comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce qui donne de la force, du courage, de l'allant, de la confiance, c'est de vous confronter aux difficultés. C'est de ne pas avoir peur de l'échec. L'échec peut vous construire. Être optimiste, ce n'est pas dire qu'il n'y aura jamais d'échec. C'est dire même s'il y a des échecs, je vais pouvoir en faire quelque chose. Je vais pouvoir rebondir. Et c'est pour ça, la sérénité, on est vraiment prisonnier. On croit toujours que la sérénité, c'est je vais être à l'abri, tout va bien se passer. Non, être serein, c'est apprendre qu'on peut travailler avec les situations. C'est ça la leçon principale. On n'est pas enfermé dans quelque chose. La situation, elle est modelable. Je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un bouchon de liège. Je peux faire quelque chose de ce qui m'arrive.
Florence, comment vous définissez-vous le mot serein ? Puisque j'en reviens au titre du livre de Fabrice Midal, comment rester serein quand tout s'effondre ?
Alors moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse rester serein quand tout s'effondre et je ne le cherche pas non plus puisque, comme je vous le disais, la variation des émotions et des situations, je trouve, est une source d'énergie formidable.
C'est ce que j'appelle serein, parce qu'en fait, serein, on l'a identifié avec calme, mais serein, ça veut dire clair. C'est le même mot qu'on trouve dans sérénade. C'est une sorte de clarté qui permet justement de faire ce que vous avez décrit comme mouvement de vie.
D'accord, mais même si ça n'est pas clair, j'accepte que ça ne soit pas clair. Et par exemple, dans le témoignage que nous venons d'entendre, la réussite... n'est pas un des facteurs d'optimisme ou n'est pas un moteur de l'optimisme. La réussite, c'est juste de temps en temps un petit booster sympathique qui nous permet de savoir que c'est chouette. Mais le reste du temps, c'est difficile. Et dans un moment comme celui que nous vivons, il y a une chose, alors peut-être ça fait partie de ce qui peut aider la sérénité vue par Fabrice Midal, mais je trouve que l'incroyable mouvement qui est en train de se produire autour de nous, c'est que nous sommes tous tous confrontés à la difficulté. Et ça, c'est très inédit, parce que dans nos vies, très souvent, on se dit, c'est dur pour moi, il m'arrive quelque chose, j'ai un accident, justement, j'ai un accident, une maladie, etc. Et je suis seule. Or là, nous sommes tous dans cette...
Donc ça soulage de savoir qu'on n'est pas tout seul.
Non, ça, c'est pas, non seulement ça soulage, mais ça permet de se tourner vers les autres et de trouver de la force là-dedans. Et ça, je trouve que c'est tout à fait inédit et c'est semblable à une guerre, c'est semblable à ce qu'ont pu vivre les générations avant nous. Donc c'est incroyable.
Et est-ce que la peur peut être un moteur? Ce que vous écrivez, Fabrice Midal, c'est sain d'avoir peur parce que nous ne sommes pas des robots.
Absolument. Ce que je voulais montrer, c'est sain d'avoir peur, c'est sain d'être en colère, c'est sain... C'est même sain de se plaindre un moment, mais il ne faut pas qu'on reste prisonnier dedans. Et la sérénité, c'est le fait qu'on sente qu'on peut faire quelque chose à partir de là. Mais oui, c'est très important de sentir qu'on a un robot et d'arrêter de s'en vouloir d'être humain. Et au fond, des fois, on a l'impression que le fait d'avoir peur, ce serait une faute, qu'on devrait être dans une transparence totale. Ce que j'appelle parfois, ça c'est un peu le philosophe qui parle, mais... le néo-capitalisme psychique. On parle beaucoup du néo-libéralisme, de l'instrumentalisation de tout, des animaux, des choses, de la terre, des êtres humains, pour les instrumentaliser. Et on parle moins de la manière dont on finit par avoir ce même rapport à soi-même. Il faut qu'on soit toujours plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je trouve que ce dont on a besoin, c'est de faire la paix avec notre humanité. Et à partir de là, on peut trouver des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, en acceptant de ne pas être un robot, paradoxalement, on est plus fort. En voulant être un robot comme on n'est pas des robots, on devient de plus en plus fragile. Et c'est un paradoxe très éclairant, je crois.
On va écouter un autre message, celui d'Ange. Il est étudiant en master de droit à Paris.
Bonjour. Personnellement, j'ai compris qu'avoir une expérience de la vie, c'est grandir en maturité et en esprit. Personnellement, j'ai perdu ma mère l'année dernière et j'étais en dernière année de licence de droit. J'ai vu mon espoir, ma mère, partir devant mes yeux. Mais pour moi, le seul remède, c'était de ne jamais désespérer, d'être confiant en méditant sur mon avenir et non sur le passé. Parce que lorsque tout s'effondre, il faudrait s'entourer des bonnes personnes. Le social est très important. Je répète, il est très important pour le développement personnel. Actuellement, je suis en master à Paris, dans une grande école de Paris. J'y suis arrivé parce que j'ai été à la quête de la confiance en soi. Il faut rester optimiste. Merci à vous.
Florence Servan-Schreiber, Ange a préféré, a choisi de ne pas regarder en arrière, mais en avant. C'est ça la clé aussi, tout à l'heure vous en parliez, l'action, le mouvement.
Oui, il parle à la fois de l'action et puis il parle des autres. C'est-à-dire qu'il a clairement trouvé du confort dans les gens qui l'entourent et la façon dont il va se projeter, la façon dont il va se relier. Donc ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. Nous avons besoin de liens. C'est formidable. C'est formidable. Et quand il parle de l'expérience de la vie, malheureusement, l'expérience ne nous empêche jamais un deuxième passage. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous protéger contre le pire, mais au moins... elle nous donne à chaque fois l'occasion d'être obligé d'essayer autre chose. Et c'est ce qu'il décrit, en disant « je ne me laisse pas aller par le désespoir alors que c'est ça qui m'a envahi, mais je choisis de regarder devant ». Bien sûr, quand on regarde devant, tout est à créer. C'est très différent.
On va écouter un peu de musique avec Gaël Faye, « Respire ». C'est le premier extrait de son nouvel album, « Lundi méchant », qui sortira le 6 novembre prochain.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Respire, Gaël Faye, vous écoutez RFI 7 milliards de voisins. Comment rester positif quand tout s'effondre, quand rien ne va plus? On continue d'en discuter avec la journaliste Florence Servan-Schreiber et le philosophe Raphaël Midal. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un reportage de Raphaël Constant. Rire pour chasser la peur du coronavirus, rire pour respirer, justement. C'est ce que propose Fanny Pioffrey, animatrice en yoga du rire depuis 5 ans. Selon cette sophrologue, il est possible d'affronter cette période morose de pandémie avec moins d'anxiété grâce au yoga du rire. Cette pratique, inventée par le docteur Kataria en Inde, permet de récolter les bénéfices du rire sans avoir un rire spontané. Raphaël Constant a assisté à une séance de yoga du rire à Paris où 4 personnes sont venues masquées pour se débarrasser de leur stress grâce au rire.
Ok, c'est parti. Je vous rappelle les consignes et on y va. Donc, se regarder dans les yeux, très important. Ne pas parler, allez-y en mettant tout votre cœur. Et si vous sentez que vous avez un peu mal à la tête, quoi que ce soit, vous y allez tout doucement, d'accord? Alors, on va commencer par un petit baragouin. Oh, je veux blader le cochon. On commence par, aujourd'hui, je vous emmène en Thaïlande. Et puis, je vous propose de prendre le train pour Chiang Mai. Alors, du coup, on va faire le train, les roues du train. Tac. Et on va avancer comme ça, en riant. Donc le yoga du rire, en fait, c'est un yoga sans posture de yoga. Donc on va combiner des exercices de rire un peu particuliers, appelés des exercices de rire sans raison, avec des exercices de respiration et des étirements. Donc le but, c'est de provoquer en une heure tous les bienfaits d'un fou rire de 15 minutes en continu. En termes de sensations physiques, c'est-à-dire que vous allez oxygéner tout votre corps, là, avec les masques, c'est un peu, peut-être un peu plus difficile, mais c'est l'idée quand même. Et puis, soulager tout le stress, évacuer les toxines, et puis surtout libérer des endorphines et de la dopamine. Donc là, n'attendez pas à des exercices super drôles, ils ne sont pas drôles du tout. Le but, c'est juste de servir de prétexte au rire. Donc ces fameux exercices, où on bouge en mouvement et on rit en même temps. On va forcer le rire jusqu'à ce qu'il apparaisse naturellement. Quand vous souriez, le sourire est contagieux. Quand vous riez, c'est contagieux. Quand vous faites la tête, c'est contagieux aussi. Donc là, on va plutôt partager quelque chose de sympa ensemble. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lâcher prise, rester dans le corps.
Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha.
Et dernière.
Ho, ho, ha, ha, ha.
Et on décide de faire un petit tour à la plage le lendemain. on prend les tuk-tuks. Alors, on a notre tuk-tuk individuel hein, pour cause de Covid. Alors, hop, on a tous notre tuk-tuk, on y va, on se déplace comme ça, en riant.
Comment vous vous sentez après ce cours de yoga du rire ?
Très bien, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai l'impression que ça, les énergies se rééquilibrent. Enfin, je me sens bien. Ça fait comme une bulle dans laquelle on... Ben là, on va être bien, on sait qu'on va rire, qu'on va se détendre.
Pourquoi vous avez besoin de rire en ce moment ?
Je pense que c'est surtout l'ambiance actuelle.
Quand vous dites en ce moment, vous parlez du climat actuel, de la crise sanitaire, la crise économique.
Et c'est vrai qu'autour de nous, on n'a pas beaucoup de situations qui nous portent vraiment à rire, même si on est à l'affût de ça, parce que c'est bien de rire, hein, ça fait énormément de bien. J'adore rire, et ça me manque, ouais, c'est un peu comme une drogue, un peu, hein, c'est peut-être pas le terme, mais on est en manque.
Qu'est-ce que ça vous apporte, ce cours de yoga du rire ?
Bien, Fanny, pendant la période de confinement, a eu la très bonne idée de nous faire aussi des cours de yoga du rire par Zoom.
Et en ligne ?
En ligne, oui. Tous les jours, pendant les deux mois de confinement, on avait une ou deux séances de yoga du rire, une petite demi-heure ou 20 minutes. En visio, ça nous a quand même beaucoup, beaucoup aidé pendant cette période un peu tristoune.
Est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui dans vos groupes ? Est-ce que vous sentez les gens plus tendus, moins prêts à rire peut-être à cause de ce contexte stressant du Covid ?
Je ne vois pas vraiment de différence, mais j'ai quand même l'impression que l'envie de rire est plus présente aujourd'hui, justement parce qu'il y a moins de raisons de rire. Ils ont perdu leur rire. Ils ont perdu leur rire d'enfant, ils ne rient plus au travail, ils ne rient plus chez eux, ils ne trouvent pas de raison de rire. Et donc, ils ont envie de retrouver ce fameux rire. Mais néanmoins, c'est quand même magique de voir qu'il y a quand même des rires qui arrivent à émerger spontanément, malgré le masque qui étouffe un peu quand même.
Un besoin de lâcher prise, en fait.
Et puis, on va prendre les tapis, on va les mettre en cercle, on va mettre les pieds au centre et on la tête plutôt vers l'arrière. Prenez le temps de faire revenir à vous aussi tous les sourires, tous les rires de votre présent. Et puis aussi tous les sourires et tous les rires à venir. Laissez venir à vous tout le positif de l'avenir. Continuez comme ça un peu chez vous parce que c'est important. Ça fait du bien, ça détend.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Florence Savant-Schreiber, nous on rit sans avoir fait de yoga. Vous avez testé pourtant hein, le yoga du rire, résultat.
Mais, oui, j'ai testé parce que dans yoga et rire, tout fait envie franchement. Donc j'y suis allée très naïvement en me disant ça peut que être génial. Ça ne m'a pas plu du tout. Je crois que j'aime trop l'humour, c'est-à-dire que j'aime trop éclater de rire parce que quelque chose est drôle. Ça, c'est ce que j'adore dans le rire et c'est ça qui me donne de la légèreté. Mais respirer pour rire, pour espérer que ça démarre, etc. et puis faire ça pendant une heure, je trouvais ça très fatigant et ça ne m'a pas procuré ce que décrivent les gens. Mais je comprends et j'entends qu'on a besoin de se lâcher, que c'est une façon de se lâcher. C'était juste pas la mienne.
Alors, on a reçu un autre message sur Facebook. Freddy de Goma, en RDC, nous écrit « Moi, ce qui me permet de rester debout, c'est l'idée selon laquelle regretter, c'est perdre deux fois. Alors, parfois, je tombe, mais je fais tout pour me relever, même si ça me touche. » Fabrice Midal.
Moi, je pense que ce qui est au cœur de ce témoignage, c'est la possibilité d'être ouvert à l'avenir. Ce qu'on a déjà mentionné. Et en réfléchissant beaucoup, en écrivant le livre, je me suis rendu compte de l'importance de l'espoir. En philosophie, l'espoir a mauvaise presse parce qu'on considère que ce n'est pas complètement rationnel. Et je me suis dit, au fond, on ne peut pas se lever le matin si on n'a pas de l'espoir que quelque chose va se passer. Et j'aime beaucoup cette phrase de Luther. On demandait à Luther, qu'est-ce que vous feriez si c'était la fin du monde ? Et il dit, je planterai un pommier. Et je trouve ça extraordinaire comme phrase, parce que c'est complètement idiot, puisque si c'est la fin du monde, pourquoi planter un pommier ? Et en le faisant, il maintient ce qui est le plus beau de son humanité. Peut-être qu'en plantant un pommier, ça ne va pas être la fin du monde, parce qu'il parie pour l'avenir, mais en tout cas, il ne renonce pas à ce qui fait le sel de la vie. Et il y a une bonne raison d'avoir de l'espoir, c'est qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. toutes les prévisions sont fausses, personne n'avait prévu le Covid, on ne sait pas de quoi ce sera fait, et donc il y a toujours de l'incertain, et donc l'incertain c'est des fois aussi des chances qui s'ouvrent, et même s'il n'y a pas de bonne raison d'avoir de l'espoir, avoir de l'espoir c'est maintenir notre aspiration, la dignité de notre propre cœur, ce qui fait sens de notre humanité. Donc je crois que une bonne manière de rester serein quand tout s'effondre, c'est de ne pas perdre l'espoir de ce qui nous permet d'être des êtres humains ensemble.
Florence Avant-Schreiber, tout à l'heure, Fabrice disait à quel point il était important de nommer ses peurs, mais il faut aussi nommer ses souffrances et on peut les coucher sur papier. Vous, c'est ce que vous défendez à travers, dans votre livre, hein, Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer. Vous recommandez d'avoir un journal intime et d'écrire chaque jour 20 minutes dans son journal intime. Pourquoi est-ce que c'est important pour soigner des mots MAUX comme l'anxiété, par exemple?
L'écriture est une chose démente, puisque en fait, c'est une matérialisation de la petite voix qui nous parle tout le temps. Et en fait, c'est elle qui nous fait souffrir. Ce n'est pas tant ce qui se passe que ce que nous racontons à propos de ce qui se passe. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi des choses formidables. Et lorsque nous prenons un stylo, nous prenons un morceau de papier, et qu'un journal intime, par exemple, et quand je dis intime, c'est vraiment intime, hein, c'est que personne n'ira le lire. Il faut s'assurer que personne ne le lira jamais. Nous pouvons coucher absolument tout ce qui nous traverse l'esprit. Aussi bien le pire que le meilleur, que les choses affreuses que l'on se dit sur les autres, sur les situations, etc. Et ça nous purge, c'est-à-dire que ça soulage complètement justement l'encombrement que nous avons dans la tête et ça se dissipe. Mais il faut pour ça un geste mécanique, donc que ce soit de tenir un stylo, que ce soit de taper sur un clavier.
Ah, on peut aussi taper, moi j'avais bien compris sûr. En vous lisant qu'il valait mieux prendre un stylo.
Non, pas du tout, taper tout dépend de ce qui nous est confortable, il y a même des gens qui vont faire ça sur leur smartphone avec leur pouce, donc il n'y a plus aucune règle là-dessus. Vous savez, même aux États-Unis on n'apprend plus l'écriture cursive aux enfants, c'est terminé. Donc tout ça pour dire que c'est une mécanique fantastique. Alors vous parlez de 20 minutes, c'est un exercice très précis qui permet en 3 fois 20 minutes, c'est-à-dire 3 jours de suite, de non seulement se débarrasser de traumatismes profonds, non seulement de limiter et réduire l'inquiétude et la peur que l'on peut avoir face à une échéance, un examen ou je ne sais quoi, mais également une expérience tout à fait dingue qui a démontré que quand on faisait cet exercice, donc on parle d'un événement précis 3 jours de suite pendant 20 minutes pour en effet tout purger, et qu'on vous fait une petite entaille dans le bras. Si vous avez fait ça, vous allez cicatriser plus rapidement que quelqu'un qui n'aura pas fait cet exercice. Donc,
c'est vrai que c'est assez hallucinant.
C'est une manière de démontrer à quel point l'écriture a des conséquences physiologiques et psychologiques positives sur notre organisme et sur notre psychisme. C'est presque magique. C'est une thérapie portative. C'est quelque chose que l'on fait absolument sans rien ni personne. On peut le faire quand on veut, si on en a besoin, pas si on n'en a pas besoin. C'est incroyablement souple. C'est fantastique. Je suis allée vraiment retrouver toutes les recherches qui ont été faites.
Oui, parce que ce n'est pas sorti comme ça un beau jour de votre imagination.
Je n'ai rien inventé.
Des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus.
Des études très sérieuses qui sont faites dans des laboratoires de psychologie, puisque c'est ça qui m'intéresse, et qui ont démontré tout un tas de bienfaits. Donc, non seulement ça permet d'aller mieux, donc de se développer personnellement, ça permet de se soigner, de se réparer, ça permet de créer, ça permet de s'éclater, ça permet de s'exprimer, ça permet de communiquer. C'est vraiment une des choses, nous avons tous appris à le faire à l'école, avec plus ou moins de succès, donc certaines personnes restent traumatisées. Je vais vous dire quelque chose, je le fais moi-même, on peut écrire et obtenir tous ces bénéfices avec un orthographe déplorable. Ça n'a rien à voir.
Oui, c'est ça, il ne faut pas avoir de complexe.
Hein. Pas du tout.
On peut ne pas se soucier de la grammaire, syntaxe.
Aucune importance.
On s'en moque.
Ce qui compte, c'est ce qui va nous sortir, c'est cette petite voix qui va se matérialiser sur une feuille de papier.
Mais est-ce qu'on n'associe pas davantage les journaux intimes aux filles?
Pour les adolescentes, oui. Mais une fois que nous sommes grands, franchement, les difficultés, nous y sommes tous confrontés. Les moments fantastiques de la vie, nous y sommes tous confrontés. Alors, je ne sais pas, j'ai grandi avec un père qui tenait un journal. Mon père tient un journal absolument tous les jours depuis l'âge de 15 ans. Donc, pour moi, au contraire, c'est quelque chose de très masculin. Et j'ai dû en faire quelque chose de féminin pour m'y mettre.
Fabrice Midal, est-ce que vous tenez un journal intime?
Non, mais le pouvoir de l'écriture est indéniable, parce que L'idée, c'est d'entrer en rapport à ce qu'on expérimente, à ce qu'on vit. Et on est tellement coupé de ce que l'on vit, pour toutes les raisons dont on a parlé, être comme un robot, penser qu'on doit être comme ceci, qu'il n'y ait pas de jugement et qu'on puisse écrire ce qu'on a sur le cœur en laissant tomber le jugement, pouvoir le faire apparaître, c'est absolument, absolument libérateur. Et ça rejoint vraiment ce que j'essaie de défendre dans cette idée d'une sérénité qui est le fait qu'on sente qu'on peut travailler avec tout ce qui est. Tout ce qui est là, car on n'est jamais en faute de sentir quelque chose. On vit dans un monde où on a l'impression que si on a peur, on est en colère, c'est mal. Mais ce qui est mal, c'est de faire du mal à quelqu'un, c'est pas d'avoir telle pensée ou telle émotion. Aucune émotion, aucune pensée qui nous traverse n'est mal en soi. Et donc ce travail d'écriture, ça permet d'entrer en rapport à ce que l'on est sans jugement, de retrouver ce sens de confiance. Et je crois que ça, c'est très important.
Vous enseignez aussi la méditation.
Oui.
Qu'est-ce que la méditation vous apporte, notamment en cette période, comme je l'ai dit, compliquée, troublée
Alors, il y a deux formes de méditation. Dans méditation, je suis toujours un peu gêné, parce qu'aujourd'hui, la méditation, c'est être calme, être zen, ce que j'ai dénoncé depuis le début de l'émission. Donc, moi, je ne médite pas pour faire le vide dans ma tête, essayer d'observer mes pensées. Tout ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je médite pour entrer en rapport à ce qui se passe.
Pour donc, apprivoiser tout ce qui vous entoure,
voilà,
y compris vos émotions, vos peurs.
Ce qui rejoint beaucoup de choses qu'on a décrites avec l'écriture, c'est j'essaie juste de voir ce qui m'arrive, ce que je sens, sans jugement, d'explorer ce qui m'arrive, d'entrer en rapport à mon cœur. Et j'ai fait beaucoup pendant le confinement, j'ai commencé à faire des cours en visioconférence. Au début, je me dis, mais jamais ça va marcher un truc pareil. Moi, j'ai l'habitude de faire des choses en présentiel, et je me suis rendu compte que ce que ça permettait beaucoup pour les gens, c'est juste de rencontrer leur propre cœur. En rencontrant leur cœur, ils trouvaient à la fois un soulagement et beaucoup d'allant. Et du coup, j'en fais régulièrement, si ça intéresse les auditeurs, sur ma page, c'est indiqué les prochains cours en visioconférence que je fais. Mais j'essaie de donner
précisera sur notre page, à la page Facebook de l'émission.
Oui, j'essaie de donner des méditations qui soit très efficace et qui soit en rapport aux différentes situations. Parce que pour moi, la méditation, on ne médite pas de la même manière si on a un problème au boulot, si on a de la colère ou si on a un problème avec son conjoint. Il y a différentes formes de méditation qui peuvent nous aider à mobiliser nos propres ressources et à voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de la peur, qu'est-ce qu'on fait de la colère, qu'est-ce qu'on fait de l'inquiétude, comment on fait venir de la joie, comment on fait venir de l'aspiration. Et donc, c'est ça un peu pour moi. Il y a plein de formes de méditation différentes. Et c'est plutôt ça, c'est comment dans le présent je mobilise ce qui est le meilleur en moi et je surmonte ce qui est difficile.
Florence, ça ne sert à rien de se demander pourquoi c'est tombé sur moi, quel sens je dois donner à ma souffrance. Pour vous, c'est stérile ce genre d'interrogation ?
Non, ça viendra. Mais en général, au moment où nous souffrons, nous avons cet élan qui est de dire « mais pourquoi ça m'arrive ? Et qu'est-ce que je vais en sortir ? Et c'est une épreuve, etc. » Et j'ai besoin de trouver un enseignement, mais l'enseignement vient après. Mmh. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut déjà le traverser, il faut déjà l'absorber, il faut déjà essayer de voir des coins de ciel bleu là où on peut en voir. Et puis un jour, ce sera clair et ce sera très clair et ce sera très utile. Mais pas tout de suite.
Fabrice, vous faites souvent référence à la culture chinoise. Par exemple, quand vous expliquez qu'une crise n'est pas forcément une période négative, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et ce qui est très intéressant, le mot chinois pour dire crise
Wei
a
ji.
Un double sens.
Weiji, c'est problème et opportunité. Dans le même mot, c'est intéressant que pour le même mot, vous savez, les Chinois, ils font par idéogramme. Donc, il y a deux mots pour dire crise. Il y a un problème et il y a une opportunité. Mais pour voir l'opportunité, il faut ouvrir les yeux, il faut être prêt à regarder ce qui se passe. Et en effet, essayer de vouloir comprendre pourquoi on a un problème, ça bloque. Ça nous empêche de regarder ce qui se passe et trouver par où naviguer. Et ce qui permet de trouver l'allant et la sérénité, c'est justement au contraire de pouvoir regarder et voir là où on ne voyait pas. Par exemple, moi, quand le confinement, moi je fais des séminaires, j'ai fait plus aucun séminaire. Au début, je me dis, mais mon Dieu, c'est terrible, je peux plus faire ce que j'ai à faire. Et puis je me dis, je vais faire des cours en visioconférence. Et au début, je me dis, c'est pas possible. Et puis j'ai appris. Et puis c'est pas la même chose qu'en présentiel. C'est une autre écriture, c'est une autre manière de faire. Et finalement, ça s'avère beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Mais ça, je pouvais pas le deviner avant de le faire et d'expérimenter. Et dans la vie, c'est souvent comme ça. C'est en entrant dans le réel qu'on voit par où on peut le transformer.
Vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire du homard ?
J'ai découvert, et ça m'a mis dans une jubilation très profonde, que les homards, au bout d'un moment, ils ont une carapace, et la carapace, elle devient très durs et donc ils sont à l'étroit et donc ils sont un peu stressés. Alors ils ont deux solutions, soit ils essayent d'être positifs et ils vont crever parce qu'ils vont étouffer dans leur carapace, soit ils essayent de se poser des questions sur ce qui leur arrive. Et ils se rendent compte que la carapace est trop petite, donc ils vont sous un rocher, ils abandonnent la carapace et ils grandissent. Et ils ont une nouvelle, et ils peuvent avoir une plus grande carapace. Puis après quelques mois, la carapace est à nouveau étroite, ils ne vont pas aller voir des gourous de bien-être qui vont leur dire « sois zen, lâche prise » et toutes ces conneries. Ils vont essayer de voir un peu ce qui se passe et qu'ils ont besoin d'inventer quelque chose. Donc ils vont laisser tomber leur carapace, prendre le risque de laisser tomber leur carapace, qui est un peu inconfortable, pour avoir une plus grande carapace. Et je trouve que ça dit bien quelque chose de la vie et des difficultés. Il faut des fois accepter de se mettre à nu pour pouvoir avancer. Il faut parfois accepter un certain inconfort pour grandir. Mais c'est aussi... vous savez, vous vous souvenez dans Le Petit Prince, moi j'aime beaucoup ce passage où quand le petit prince s'en va, il dit à la rose « Mais comment tu vas faire le soir si je ne peux plus te mettre le globe pour te protéger des chenilles ?» Parce que la rose, elle était un peu, elle exagérait tout le temps, il ne fallait pas qu'elle voie les chenilles et tout. Et la rose le regarde et lui dit « Il faut bien que je connaisse quelques chenilles si je veux voir un jour un papillon. » Et je crois que c'est ça, l'histoire du homard, l'histoire de la rose, c'est ça. Il y a des possibles en nous qui sont formidables. En bas de chez moi, il y a un endroit où les jeunes jouaient avec des skates et plein de choses. Et puis à un moment, on a eu peur qu'ils se fassent mal et on a mis des plots. Et ils peuvent plus rien faire. Et je trouve que c'est un peu une métaphore du problème. À force de vouloir que tout le monde soit en sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont plus que regarder leur écran toute la journée. On a besoin de prendre des risques pour pouvoir aller de l'avant. Et en enlevant tous les risques, il y a quelque chose de triste. Qui vient et qui fait qu'on devient très déprimé et qu'on perd confiance dans nos propres ressources. C'est ça que je voudrais essayer de montrer.
Florence, on connaissait Fabrice Midal, philosophe, écrivain, le voilà conteur. Est-ce que vous avez aimé l'histoire du homard?
Alors, je trouve que c'est une excellente nouvelle puisque là, nous avons tous laissé nos carapaces. C'est-à-dire que nous sommes tous sortis du rocher et c'est tout le monde est tout nu là en ce moment. Et c'est un peu ça l'effet de cette crise. Donc, visiblement, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, donc du moins, pour résumer, du moins bon peut sortir le meilleur.
Du moins bon sort toujours le meilleur, puisque ça ne peut pas être pire. Franchement, là au moins, lorsque nous ne nous sentons pas bien, je trouve qu'une des merveilleuses nouvelles quand on ne se sent pas bien, c'est que forcément, on va se sentir mieux. Et évidemment, c'est là-dessus qu'il faut garder son regard. On tourne le regard vers l'idée que ça... Et justement, qu'un jour, on va rire de nouveau, naturellement. Ça, ce sera génial.
Et puis, il y a la notion de partage. C'est-à-dire, quand les choses vont vraiment très mal, il y a quand même la possibilité du partage et de la tendresse qui fait qu'on partage quelque chose de notre commune humanité. Et je crois que c'est vraiment important de... On a un peu perdu ce sens de l'affection, de la tendresse, de l'amitié. Dans le livre de Job, dans la Bible, les amis de Job veulent essayer de lui expliquer pourquoi il souffre. Et Job dit « Je veux pas, c'est pas d'explication que j'ai besoin, c'est d'affection, d'amitié. » Et il y a quelque chose comme un très beau paradoxe que souvent ce qui est le plus nécessaire et le plus utile, c'est très simple, c'est juste d'être là avec l'autre, juste de partager. Et souvent, quand des gens sont en peine, de partager leur peine, ça fait un bien fou. Et ça échappe à la logique habituelle, parce qu'on ne fait rien. Et pourtant, on fait quelque chose qui est fondamental. Et je crois que c'est ça qui me semble aussi nécessaire. Du pire et des difficultés, on peut faire quelque chose. Et quand on ne peut pas, il y a quand même le partage de la tendresse qui fait que ça transforme absolument notre manière de vivre la difficulté.
Vous dites aussi, nous ne devons pas être spectateurs de nos vies. Les portes ne s'ouvrent pas toutes seules, il faut les pousser.
Ça, c'est très important. Je crois que c'est ça que je dénonçais quand on nous dit « mais qu'est-ce que tu sens ?» Qu'on est enfermé dans l'émotion immédiate. C'est comme si on regardait notre propre vie et qu'on était spectateur. Mais on est acteur de notre propre vie. Donc à chaque moment, on a la possibilité de faire quelque chose. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. On a à chaque moment... la possibilité de faire quelque chose, ne serait-ce que d'avoir un regard de tendresse par rapport à ce qu'on vit nous ou ce que vit l'autre. C'est déjà énorme, ça change absolument tout.
Ou de prendre un stylo. Voilà, prendre un stylo, c'est ouvrir une porte, c'est décider qu'on va, je passe à l'action et ça je peux le faire. Je n'ai pas besoin ni de voir d'autres gens, ni de bouger quelque part. Déjà il se passe quelque chose, il y a une transformation qui s'opère et c'est ça dont nous avons besoin.
Oui, parce que quand on écrit, on n'est plus le simple spectateur, on commence déjà à rentrer dans un mouvement. Ça c'est formidable.
même si c'est un écrit éphémère, puisque vous dites qu'on peut très bien écrire pendant 20 minutes et ensuite déchirer tout ce qu'on a écrit, Florence.
Alors oui, alors c'est même recommandé pour certains types d'exercices, c'est-à-dire que si on va écrire à propos de quelque chose de très traumatisant, il y a presque un geste symbolique dans le fait d'aller détruire ce texte. On n'a pas besoin de le regarder comme une œuvre. Ce n'est pas une œuvre, c'était une pulsion, c'était un traitement. Travail. Il y a une synthétisation qui s'est faite, donc elle est faite. Et donc, on peut se débarrasser du papier. Et puis, parfois, lorsqu'on tient un journal, il y a quand même une vraie valeur à relire son journal intime parce que rares sont les gens qui nous connaissent aussi bien et qui sont capables de retracer notre vie. Et on se voit évoluer. C'est-à-dire qu'on voit où nous en étions, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a changé ou pas. C'est aussi intéressant de voir si jamais les choses n'ont pas avancé. Et en fait, c'est passionnant parce que rien ne nous intéresse plus que notre propre vie, si on regarde bien.
Oh, I know I've been there before, but I ain't sorry, it's plain to see. I just let go, this time for sure, and in the blink of an eye. To escape, at least I'm gonna give it a try.
Le nouveau single de Kimber Rose, la jeune française à la voix soul dont on attend le deuxième album en février 2021. Merci Florence Servan-Schreiber et Fabrice Midal d'avoir été nos invités. Florence Blum, écrire pour s'épanouir et kiffer, est publié chez Marabout. Fabrice, votre essai « Comment rester serein quand tout s'effondre » est paru chez Flammarion Versilio. Demain, Emmanuel Bastide et ses invités tenteront de répondre à la question « Comment fabrique-t-on de l'obésité ?» Une personne sur 10 est obèse dans le monde, soit 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Pourquoi ? Quelles sont les responsabilités des industriels, du marketing alimentaire, des pouvoirs publics ? Si vous voulez réagir ou poser des questions, un seul numéro, WhatsApp, 337 64 45 51 41. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous et Romain Dubrac. À bientôt et portez-vous bien.